BFM Business, tout pour investir.
Il est 11h, soyez les bienvenus dans Tout pour investir en direct sur BFM Business, à la télé, à la radio, sur Internet. Vous nous retrouvez bien sûr également en replay, en podcast hein, sur bfmbusiness.fr. On est ensemble pendant une heure pour parler de vos placements, tout en restant connectés au marché alors qu'ils reprennent un petit peu d'altitude. On a un CAC 40 là qui grappille 0,4-0,5%. On verra ça tout seul, bien sûr, dans quelques minutes avec notre tableau de bord. Je vous redonne en attendant les grandes infos de ces dernières heures. D'abord, ces infos du Wall Street Journal qui expliquent en grande partie le petit coup de mieux du côté des marchés ce matin, puisque d'après ce quotidien, Donald Trump aurait dit cette nuit à ses conseillers qu'il envisageait d'arrêter les hostilités en Iran, même s'il n'obtenait pas la réouverture totale du détroit d'Hormuz. On a par ailleurs eu confirmation hier que deux porte-conteneurs chinois avaient pu traverser le fameux détroit. Emmanuel Macron, lui, vient d'arriver il y a quelques minutes du côté du Japon, dans le cadre d'une tournée en Asie qui l'emmènera ensuite du côté de la Corée du Sud. Il est d'ores et déjà à Tokyo, en tout cas. Il sera évidemment question de la situation au Moyen-Orient. Il y aura aussi des annonces apparemment faites dans le domaine du nucléaire civil ou du spatial pour renforcer les partenariats entre les deux pays. Et puis, c'est le chiffre qui est tombé tout à l'heure et qui va nous faire causer dans un instant, notamment avec nos déchiffreurs, évidemment, l'inflation qui s'envole au mois de mars, là, qui est en train de se terminer, mois de mars. On a eu le chiffre de l'INSEE ce matin, 1,7% plus 1,7% sur un an. On était à seulement 0,9 il y a un mois. Rendez-vous compte, on a quasiment doublé en l'espace de quelques semaines à cause, bien sûr, de la hausse des prix de l'énergie. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Puis je vous donne un petit aperçu des thèmes patrimoine qu'on abordera quand même, surtout en deuxième partie à partir de 11h30. On parlera des performances attendues des ETF. Ce sera avec Jérôme Viala. On parlera aussi du transfert générationnel, transfert de patrimoine de génération à génération. Rendez-vous compte, rien qu'en France, vous avez 9000 milliards d'euros qui vont changer de génération d'ici 2040, c'est-à-dire demain. 14 ans, tout est pour tout. Et puis, on est dans la période où beaucoup de salariés reçoivent leur prime d'intéressement et ou de participation. Ben, on vous donnera quelques conseils pour gérer tout ça au mieux, évidemment. Sinon, vous nous envoyez vos questions sur Internet, direct at bfmbusiness.fr ou par SMS 73216. Vous tapez le mot-clé « business » et votre message. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, c'est le tableau de bord de vos marchés.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Alors, je vous disais, les marchés qui reprennent quelques... Alors, pas partout. Du côté de l'Europe et de la France, vous voyez, ça va mieux. Parce que, en toile de fond, vous avez un baril de Brent qui se détend. On est à 106, 107 dollars sur le baril, bien sûr, notamment consécutivement aux infos du Wall Street Journal dont je vous faisais état il y a quelques instants. On reprend quelques couleurs du coup sur les marchés européens. Vous voyez le CAC 40 qui grappille donc 0,5%, 7810 points. Et puis pareil, des hausses à peu près similaires, 0,5, 0,6, 0,7% du côté de Londres, de Francfort ou encore de Milan. Ça s'est moins bien passé du côté de l'Asie au passage ce matin. Parce que là, vous savez, il y a une plus grande dépendance au pétrole et au gaz qui transite via le détroit d'Hormuz. Donc on a encore perdu 1,5% à Tokyo. 4,3% du côté de Séoul. Ben oui, qu'est-ce qui se passe si les Américains se retirent? Est-ce que ça veut dire forcément que les Iraniens rouvrent très rapidement le détroit d'Hormuz ou pas? Ça, évidemment, ça fait partie des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Vous voyez, baisse du Nikkei ce matin, Shanghai moins 0,27 et Shenzhen également en baisse. Voilà pour les actions. On revient sur Paris. On va regarder un petit peu ce qui se passe côté actions à la hausse ou à la baisse sur le CAC 40 qui est donc en hausse de 0,49%, 7810 points. Palmarès des hausses sur l'indice parisien. Vous voyez Capgemini là qui a pas mal souffert ces derniers temps, qui reprend quelques couleurs, plus 3,7. Et puis on progresse également du côté de Thales, d'Eiffage ou encore de Vinci ou de Euronext qui perdent toutes aux alentours de 2% en ce moment. Les plus fortes baisses du côté du CAC 40, parce qu'il y a d'accord même aujourd'hui, STMicro qui repère 1,4%, puis vous voyez correction sur ArcelorMittal, moins 1% également sur Total, hein, 79,42€, qui a quand même pris 45% depuis le début de l'année, l'action Total Énergie. Donc c'est évidemment un petit relâchement, puis dans une moindre mesure, on perd 0,6-0,7% sur Kering et sur Hermès. Un petit mot de l'obligataire, un petit peu de détente là aussi. Vous voyez le 10 ans français qui est à 3,75%. Alors on n'est plus au 3,86 d'il y a une semaine, certes, mais enfin on reste quand même à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on était avant le début des hostilités à 3,20. L'Allemagne, vous voyez, pareil, qui se détend un petit peu. 3,03% pour le Bund allemand à 10 ans. Puis un petit mot du marché des changes. Regardez ce que donne la parité euro-dollar, 1,1474. Le dollar qui reprend quelques couleurs et ça commence à se faire sentir. Avoir des effets ici ou là, on en parlera avec Gilles Santacreux de boursicoté.com. Ça sera dans un quart d'heure. Voilà pour le tableau de bord des marchés ce matin à 11h et quelques 5 minutes tout de suite. On débrief, on décrypte avec nos analystes.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage, ils sont en train de s'installer pour notre plus grand plaisir, nos deux déchiffreurs du jour, pour un bon quart d'heure. Christian Fontaine est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, directeur de la rédaction du magazine Le Revenu, puis Félix Baron qui est avec nous. Bonjour Félix.
Bonjour Guillaume, bonjour Christian.
Fondateur du club des investisseurs indépendants. Bah oui, c'est le chiffre qu'on va décrypter. Alors ce sont les chiffres, parce que tout est en train de tomber en cascade au moment où on se parle. Bah oui, on nous attendait, on nous donnait les chiffres pour 11h de l'inflation en zone euro. Alors je rappelle, donc la France... spectaculaire, 1,7% fin mars, nous sommes fin mars, 0,9% fin février, vous voyez on en est. Et à l'instant, je vous donne le chiffre du côté de la zone euro, nous sommes à 2,5%
à la fin mars. Pondéré par l'Allemagne.
Oui, bah oui, oui.
Heureusement.
Oui, oui.
Ça commence à faire.
Mais en l'espace de quelques semaines, enfin Christian, je veux dire, c'est quand même. Vous attendez des chiffres de cette ampleur, vous?
Bien sûr. Alors pas forcément. C'est vrai que alors 1,7 pour la petite anecdote, il me semble que c'est exactement la projection de la Banque de France pour l'ensemble de l'année. Alors on va voir ce que ça va donner. Par contre, c'est vrai que c'est un quasi doublement de l'inflation d'un mois sur l'autre, tiré bien sûr par les hydrocarbures, par la hausse du prix du gaz. En fait, l'inflation est vraiment un paramètre essentiel à suivre lorsqu'aujourd'hui on est investisseur en bourse. D'abord, oui. Parce que l'inflation va déterminer l'évolution de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique. Oui, ensuite, et ça on le dit beaucoup moins parce que cela va ou cela devrait directement impacter la politique des investisseurs. Et là, si vous permettez un petit zoom. La plupart des épargnants, lorsqu'ils placent leur argent en France sur des livrets A ou sur un contrat d'assurance vie en euros, si à la fin de l'année, ils n'ont effectué aucun retrait, aucun versement, et s'ils ont plus d'argent en compte qu'en début d'année, ils sont contents. Attention, là, c'est parce qu'on regarde la performance, le taux nominal, le taux d'intérêt nominal. Mais ce qui compte, c'est la performance réelle, ouais. C'est-à-dire déduction faite de l'inflation. Ouais. Et si à la fin de l'année, vous avez plus d'argent sur votre livret A, mais que vous pouvez acheter moins de biens et services, ça pique, ça coince. Et les épargnants ne se rendent pas assez compte de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat de leur épargne. C'est pas pour rien que Keynes disait que l'inflation c'était l'euthanasie du rentier. Et souvenez-vous ce qui s'est passé en 2022 et 2023, ces deux années où l'inflation était autour de 5%. Oui. En France, il y a environ 2000 milliards d'euros placés sur des placements à taux fixe. Ça signifie que ces deux années-là, il y a eu des dizaines de milliards d'euros de perte de pouvoir d'achat sur l'épargne des Français. Et ce qu'il faudrait absolument éviter en 2026, c'est un phénomène identique ou semblable à ce qui s'est passé en 2023 et 2022 et 2023. C'est pour ça qu'il faut surveiller l'inflation comme le lait sur le feu. C'est pour ça que si l'inflation accélère, il faut absolument s'interroger sur son allocation d'actifs et notamment sur le poids des placements à taux fixes dans son patrimoine et oser aller un tout petit peu plus vers les actions, voire les actions américaines qui sont le plus protégées aujourd'hui dans la crise puisque les États-Unis sont exportateurs nets de pétrole et de gaz.
Alors, on va avoir encore un petit peu du temps, évidemment, pour donner quelques pistes, évidemment. Mais Félix, pareil, voilà, même question. C'est cette inflation qu'on n'attendait pas et qui revient au galop. Je vous donne donc 2,5 en zone euro fin mars contre 1,9 en février. Donc ça a été plus violent en France qu'à l'échelle de la zone euro en proportion, finalement. Voilà ce que dit.
Oui, globalement, c'est normal que les deux locomotives industrielles de l'Europe, à savoir l'Allemagne et la France, soient plus impactées par l'augmentation du coût des matières premières que la Pologne ou la Lituanie.
Évidemment.
Parce qu'on est des plus gros consommateurs d'énergie. Mais tout de suite, on peut le dire par rapport à l'Allemagne, qui a une projection à plus de 2,8%. Peut-être qu'elle aurait dû se mettre au nucléaire. C'est là où on est globalement comparativement.
Mais vous avez vu que les esprits changent en Allemagne. Les discours commencent à changer un petit peu.
Oui, mais les choses mettent du temps à être construites.
Oui, donc, ça met du temps.
On a peut-être un coup à jouer. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on pensait vraiment en début d'année, et c'est là où on coïncidait peut-être avec les plus hauts historiques boursiers, que 2026, ça serait l'année de la détente, ou en tout cas de la baisse des taux. Et on est probablement même 95% à mon avis, l'année du retour de l'inflation. Et attention, ce n'est pas une inflation qui va baisser quand le conflit en Iran sera arrêté. Malheureusement, quand l'inflation est liée à un choc d'offres, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire à partir du pétrole, eh bien, elle est là pour durer. Pour une raison assez simple, non seulement vous avez le baril qui monte, donc une répercussion sur les coûts, mais en plus de ça, vous avez une désorganisation du trafic mondial. Donc, vous avez deux effets qui s'ajoutent pour montrer, pour faire monter le pétrole. Donc,
plus des installations pétrolières ou gazières qui ont été touchées dans la région, dont on ne sait pas combien de temps elles vont remettre à redémarrer.
Ah mais oui, c'est ça. Et c'est, même si on a des réserves, en fait, les chocs d'offres sont toujours inflationnistes, sont toujours au démarrage de cycle inflationniste. Et le problème de l'inflation, c'est que c'est... Alors là, vous nous parlez, vous avez raison, de projections d'inflation qui montent rapidement, mais malheureusement, je suis désolé, ça n'est que le début, parce que l'inflation dans l'économie réelle, elle se propage lentement. Parce que vous avez d'abord une répercussion sur les coûts de l'énergie, mais ensuite sur les coûts industriels, le coût des intrants industriels pour, vous en parliez tout à l'heure, les Thalès, les Saint-Gobain, les Air Liquide, etc. Et puis au bout de la chaîne, en fait, c'est les coûts pour le panier de la ménagère, pour les loyers, pour les salaires, etc. Et ça, c'est des coûts qui ne baissent jamais. On ne va pas les baisser, c'est les loyers, les salaires, etc., une fois que la guerre est terminée. Donc, préparez-vous, messieurs, dames, mais 2026, c'est le retour, je ne sais pas si c'est une hyperinflation, mais d'une inflation forte, parce que la diffusion dans l'économie réelle à partir d'un choc d'offres, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Éventuellement, il y aura une détente sur le coût des matières premières, mais l'impact qui est fait finalement sur les biens de consommation et sur les services du quotidien, ça ne baisse jamais. Je suis désolé, j'ai des mauvaises nouvelles.
Tout va dépendre de la durée du conflit. Alors, je serais peut-être un peu moins pessimiste quand même sur Félix, sur cette hausse, sur ce choc d'offres. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de la conjoncture, il y a des phénomènes structurels qui expliquent que l'inflation pourrait repartir à terme. Et donc, les phénomènes structurels, vous les connaissez, vous en parlez souvent sur votre antenne et au revenu aussi. C'est bien sûr tout ce qui est transition énergétique, ça va coûter plus cher de se chauffer de façon propre, entre guillemets. Transition démographique, transition militaire, tout ça, il y a des raisons structurelles qui font que, réindustrialisation, qui font que les hausses des prix pourraient accélérer. En fait, il faut bien voir qu'à l'exception faite des deux années que j'ai citées tout à l'heure, 2022-2023, depuis 20 ans, en fait, l'inflation en France, c'est un phénomène quasiment, oublié, puisque l'inflation tournait autour de 1%. Et souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, on avait même des années avec de l'inflation à 0%.
Absolument.
Donc, c'est quelque chose que les épargnants ont oublié, en fait, d'intégrer la hausse des prix dans leur raisonnement. Et donc, il va falloir réintégrer ça et donc forcément aller chercher davantage de rendement pour éviter cette euthanasie.
Donnez-nous quelques pistes. Alors, on va se prendre quelques minutes pour donner quelques pistes, éventuellement. On voit bien que depuis un mois, finalement, aucun actif n'a vraiment été épargné. Donc, qu'est-ce qu'on va aller trouver au bout d'un mois qui n'est pas véritablement souffert?
On va directement rentrer dans une classe d'actifs particulière. Mais vous citiez Total tout à l'heure. Bon, oui. Par exemple, là, c'est vraiment la plus forte hausse du CAC 40 depuis le début de l'année.
45% donc, depuis le début de l'année.
45%,
janvier,
voilà. Donc oui. Là, c'est une valeur qui fait plus que protéger contre le choc d'offres et de la hausse du prix du pétrole, à tel point qu'on peut même s'interroger sur aujourd'hui, est-ce que c'est pas le moment un tout petit peu de s'alléger ou de prendre, en tout cas, partiellement ses bénéfices. En période d'inflation, quelles sont les classes actives qui généralement en profitent? Alors, il y a effectivement les actions où les entreprises ont un vrai pricing power, et puis après ça, il y a tous les actifs réels. C'est vrai qu'a priori, normalement, l'immobilier, les forêts, les voitures de collection, a priori, les actifs réels protègent mieux de l'inflation, en tout cas que les placements à taux fixe, type épargne réglementée, voire même assurance vie en euros. C'est pour ça que on conseille de diversifier son contrat d'assurance vie. C'est la fameuse stratégie 60-40 que j'exprime souvent sur votre antenne, 60% de fonds en euros et 40% investis en actions internationales. En tout cas, il faut vraiment, si on se place dans la mentalité de l'épargnant français qui joue les placements à taux fixe, il faut revenir et accepter de modifier un tout petit peu son mindset pour éventuellement placer autrement et ne pas être victime d'une accélération de l'inflation.
Félix Baron.
Moi, je suis d'accord avec Christian. En effet, il faut diversifier, il faut aller chercher des actifs réels, donc des actions. Mais le problème, si les marchés anticipent une baisse des taux, si les banques centrales n'ont pas le choix que d'augmenter les taux pour contrer l'inflation...
Qui anticipe encore une baisse des taux
mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la leçon à retenir, c'est qu'on pensait que les banques centrales pilotaient l'économie parce qu'elles pouvaient baisser les taux, mais on se rend compte qu'elles subissent encore une chose et que les matières premières contrôlent encore les banques centrales. Donc, il y a encore un peu de souveraineté au-dessus des banques centrales liée au cours des matières premières. Mais pour revenir à cette histoire de hausse des taux qui est anticipée, s'il y a une hausse des taux, il y aura une baisse des valorisations. C'est mathématique. Donc, les valeurs de croissance, donc les valeurs tech, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est plus intéressant. C'est toujours aussi intéressant, mais ça va peut-être redevenir abordable ou moins cher. quoi qu'il en soit, on est quand même dans une rotation sectorielle.
Donc, Félix, les valeurs tech, vous dites, n'en sortiront pas indemnes, de toute façon.
Ah, bah, d'un point de vue.
Ce qui serait un bon prétexte pour dégonfler la bulle, au passage. Enfin,
oui, voilà, mais c'est, alors ça, c'est, pour le coup, c'est excellent, parce que si il y a un choc d'offre qui permet de la dégonfler pour une question énergétique, à la limite, bon, il y aura peut-être un peu de friction sur le data center qui est très, qui est très énergivore.
Mais, c'est déjà un peu dans les cours, hein. Si vous regardez l'évolution du Nasdaq ou l'évolution des valeurs de luxe à Paris, et qui font des parcours. Il me semble que LVMH doit être l'une des plus fortes baisses du CAC 40 depuis le début de l'année.
Il y aura des courses à faire.
Je suis
tout à fait d'accord avec Christian sur Total Energy. J'ajouterais que les majors pétrolières en France ou en Europe ou aux États-Unis, bah en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, en plus de la hausse du prix du baril, c'est que dans une période où 30% du trafic mondial de pétrole est perturbé, elles ont un pricing power. Si elles disent, bah, demain, nous, on vend 2,70 à la pompe, on n'a pas le choix. Je veux dire, on ne fera pas de notre pétrole dans notre garage nous-mêmes. Donc, à court terme, c'est un play, vraiment un trade peut-être intéressant. Peut-être, comme le disait Christian, ça les jeux, je ne sais pas, mais acheter sur repli. Parce que là, c'était 80 hier, 78 ce matin. Si vous voulez, entre guillemets, profiter du désordre logistique qui n'est pas encore résolu, là, c'est beaucoup plus court terme, vous avez les transporteurs, vous avez les GTT, par exemple, vous avez les Technip Énergie. Et puis, s'il y a vraiment une remontée des taux, bah là, c'est le secteur bancaire qui va en profiter.
Oui.
Je n'ai pas l'habitude de faire les louanges du secteur bancaire, mais BNP, Société Générale, Crédit Agricole SA, profiteraient mécaniquement d'une remontée des taux, puisqu'elles vont augmenter leur marge d'intérêt, leur produit net bancaire, mathématiquement.
Christian.
Oui, non, effectivement, Félix vient de dire faire son marché. Effectivement, on peut commencer à se poser la question de faire son marché. Lorsqu'on regarde l'évolution des grands indices depuis le début de l'année, elle est trompeuse, puisqu'on est autour de moins 4, moins 5, a priori, des deux côtés de l'Atlantique.
Wall Street, on est à moins 8, oui, c'est ça, oui, à peu près.
Alors, par contre, il y a des très belles valeurs, Safran, BNP, Schneider, etc., où les baisses sont plutôt entre moins 10 et moins 20. Hein, Safran, ça doit frôler sur un mois les moins 20%. Donc là, on peut commencer à se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment d'y revenir? En tout cas, c'est plus intéressant au cours actuel qu'il y a un mois. Donc, commencer à faire son marché, commencer à regarder donc les belles valeurs que vous n'avez pas en portefeuille, ça peut être intéressant. Et si vous avez que des valeurs de croissance, ben c'est peut-être le moment de se positionner sur des valeurs cycliques qui sont un petit peu, je pense à Saint-Gobain par exemple, un tout petit peu matraqué en ce moment. Si vous n'avez pas de bancaire, ben pourquoi pas commencer à se construire une petite ligne de BNP. Encore une fois, vraiment, hein, il faut bien penser la phrase de Warren Buffett. Hein, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut acheter? Est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est dans un mois? Et Warren Buffett répondait toujours, mais ça dépend de votre situation personnelle. Moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend de ce que vous avez déjà en portefeuille. Mais commencer à faire son marché, ça peut être une bonne stratégie.
Félix.
Notamment sur Schneider Electric.
Oui.
Là, je notais religieusement ce que nous disait Christian. C'est une valeur qui vraiment a une épingle à tirer du jeu de l'IA. Mais vraiment très importante, avec une forte croissance, notamment dans les interconnexions système électrique des data centers. Elle va être assez discrète dans un contexte de taux qui remonte ou en tout cas de marché qui corrige. Et ça sera justement sur son repli l'occasion d'acheter, bah, pour moi, une des plus belles valeurs françaises qui a un potentiel de croissance, pas infini, mais très important jusqu'à 2030, tant qu'on continue à construire l'infrastructure autour de l'IA.
Il est temps de faire son marché. Je voudrais avoir votre avis sur l'état du marché obligataire. Vous voyez, le 10 ans français, on s'est étendu. Là, on est retombé aux alentours des 3,72, 3,73. Bon, on était à 3,86. C'est une semaine, ce qui était le niveau le plus élevé depuis juin 2009, qui n'est pas anodin. Vous êtes à cheval entre la crise des subprimes, c'est le début, le commencement, les prémices de la crise de la dette souveraine en zone euro. Ça vous inquiète ou pas, Christian?
On voit bien que la stratégie anglo-saxonne, plus que française, historiquement, la moitié d'actions et puis la moitié d'obligations, en fait, ne fonctionne pas trop en ce moment. Si vous voulez, le coussin amortisseur ne fonctionne pas. Nous, au revenu, on a plutôt tendance à conseiller, dans la situation actuelle, en fait, de toujours jouer le coussin obligataire via l'assurance vie en euros. On a en France un outil exceptionnel. Alors, je sais bien que qui est l'assurance vie en euros, c'est en fait qui vous permet d'être investi sur les marchés obligataires tout en profitant d'une garantie sur le capital. Ça, c'est essentiel parce que lorsque les taux augmentent, la valeur des obligations baisse. Et donc, si vous en avez en portefeuille, vous perdez de la valeur. Alors, en France, il est très difficile pour les particuliers, voire quasiment impossible, d'investir dans des obligations en direct. C'est pas le cas à l'étranger, mais en France, c'est le cas. Et donc, le conseil du revenu, c'est de jouer les obligations plutôt via l'assurance dépenses vues en euros. Et donc là, vous profitez plutôt d'une conjoncture favorable, puisqu'en fait, aujourd'hui, les assureurs collectent beaucoup et ils placent à des taux autour de 3,5, 4%. Et donc, il y a un effet relutif. Vraiment. En fait, ça augmente fait, la température moyenne du bain, c'est-à-dire en fait le rendement moyen du portefeuille.
Donc, il faut regarder. Oui, Félix, là-dessus. Donc, vous
avez... Pas un grand fan de l'assurance vie, mais il faut bien reconnaître ce qui est mathématique. Ouais. Oui, si aujourd'hui, vous pouvez placer de la trésorerie dans des fonds euros. Alors, la garantie du capital, j'y crois pas forcément, mais pour construire une poche éventuellement de distribution, c'est sûr qu'à 3,5, 4%, c'est plus intéressant qu'à 2 ans. Ce qu'il faudra voir, c'est quelle sera la capacité de ces assureurs-vie à verser toujours ces intérêts-là quand, dans 3, 4, 5 ans, les taux recommenceront à baisser. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, quand les banques centrales ne subissent plus les matières premières, elles se remettent à piloter l'économie en baissant les taux. C'est la seule manière.
Il ne faut pas faire peur aux Français sur l'assurance vie en euros. L'assurance vie en euros, elle est solide. Elle a déjà connu des périodes de remontée des taux significatives. Les réserves sont importantes. Il y a une garantie contractuelle assureur par assureur. Je suis d'accord qu'en cas de crise systémique, on pourrait en reparler. Mais en tout cas, l'assurance vie est un placement solide et c'est une façon astucieuse de jouer le coussin obligataire plutôt que d'investir dans des obligations en direct via donc, des fonds obligataires.
Le coussin amortisseur. Il nous reste 45 secondes sur l'or. Tiens, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on y retourne déjà ? Est-ce que vous croyez à la nouvelle remontada ? Alors,
l'or a toujours fait rêver et fait encore rêver depuis la nuit des temps. C'est sans doute préférable de se constituer un coussin amortisseur sur l'or aujourd'hui que par rapport à il y a un mois le cours a déjà bien. Voilà. Si vous êtes très inquiet pour l'avenir, pourquoi pas, mais plutôt à travers de l'or physique. des pièces, des lingots, des lingotins. Ben pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous allez sur de l'or papier, il y a toujours un problème de contrepartie. Et en cas de crise systémique, je dirais, il peut y avoir un défaut. Donc, effectivement, à hauteur de 5 à 10% de vos placements, pourquoi pas un peu d'or physique.
4569 l'once d'or aujourd'hui, Félix.
Ouais, non, mais moi, je
retourne déjà ou est-ce...
Bon. Je continue à en acheter tout. Moi, je me pose pas la question parce que j'estime que le cours de l'or dépend des taux réels, du niveau des taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins le taux d'inflation. Comme le taux d'inflation va avoir tendance à augmenter, même si les taux remontent, je pense quand même en taux réel, on va continuer à rester assez faible, voire négatif, et l'or a toujours augmenté pour ça. C'est plus vraiment l'or monte pendant les crises, c'est plus vraiment ça. Il monte quand les taux réels sont faibles ou négatifs.
Et ben voilà pour nos conseils du jour. Il est temps de faire son marché, en quelque sorte. Regardez d'un peu plus près ce qui se passe à l'aune de ces chiffres de l'inflation. Je vous rappelle donc, alors l'Italie, pareil, on est à 1,7 en mars sur un an, comme en France, et puis au niveau de la zone euro, donc 2,5%. On attend tout le détail des chiffres, pays par pays de la zone euro, qu'on va vous donner, bien sûr, d'ici midi sur BFM Business. Merci messieurs d'être passés. Christian Merci Fontaine, Guillaume. Directeur de la rédaction du magazine Le Revenu. Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Merci messieurs, à très
Merci
vite.
Guillaume.
Avec plaisir. 11h23, c'est l'heure de l'arbitrage sur BFM Business.
Tout pour investir. Arbitrage.
Gilles Santacreux est avec nous en visio. Bonjour Gilles, bienvenue, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Bon, on a un CAC 40 qui reprend quelques couleurs, on est un petit peu au-dessus des 7800 points. Comment est-ce que vous regardez les choses ce matin, Gilles ?
C'est plutôt pas mal, hein, puisque lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'indice parisien, on a quand même trois grosses capitalisations qui sont dans le rouge. Je veux parler d'Hermès, Total Energy et LVMH. Et malgré ça, eh bien, le CAC 40 arrive à marquer un rebond. Alors, on sait pourquoi, des propos. Alors, on ne sait pas encore si Trump, ses propos seront suivis d'effet ou pas. On a eu la Fed qui a rassuré hier soir. Et on a un rebond, alors qui est purement technique, puisque du point de vue du CAC 40, pour avoir une remontée significative, il faudrait repasser au minimum au-dessus de la zone des 7880 points. Donc, on en est encore un petit peu loin. On va voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. En termes de conviction, il semblerait que l'on ait un peu plus de volume à heure équivalente que les séances précédentes où on manquait cruellement de conviction. Donc, si une hausse se matérialisait, que l'on venait justement casser cette zone des 7880 points et avec des volumes supérieurs à la moyenne, cela pourrait effectivement nous donner un signal de retournement qui pourrait nous permettre de voir la suite d'une manière un peu plus optimiste. Les zones d'alerte, alors on a la zone des 7715 points et 7660 points qui nous feraient redescendre dans une zone d'alerte avec, en cas de rupture des 7515 points, un risque potentiel d'accélération vers des niveaux bien inférieurs, donc de continuité du mouvement baissier en direction des 7350 points.
Voilà pour les seuils donc ce matin à 11h25 sur BFM Business. Vous vouliez nous parler du dollar, remontée du dollar qui commence à avoir quelques répercussions nettes et précises, hein, Gilles.
Ouais, alors il y a un bon repère pour ça, c'est ce qu'on appelle le dollar index. Le dollar index qui repasse au-dessus de la barre symbolique des 100 points. Et au niveau de sa structure, lorsque l'on regarde l'évolution de cet index depuis quelques mois, eh bien, on pourrait bien repartir sur un cycle haussier durable au niveau du dollar. Alors, cela ne se voit pas trop sur certains actifs, comme par exemple les matières premières, l'or, le pétrole, qui sont sur des plus hauts. Mais par contre, contre certaines devises, et notamment celles qui sont faibles, comme le yen, on a des choses qui sont intéressantes. Alors, le yen est faible, hein, on est sur des niveaux par rapport à l'euro que l'on n'avait plus vu depuis 1992. Mais si, par rapport au dollar, on repassait au-dessus de la zone des 160 yens pour un dollar, on serait sur des niveaux. Alors, pour mémoire, la dernière fois qu'on a coté ce niveau-là, c'était juste avant la crise du carry trade durant l'été 2024. Et on serait sur des niveaux que l'on n'a plus vu depuis 1986, donc ça fait 40 ans. Et on sait que dernièrement, ce sont des niveaux autour desquels eh bien, la Banque Centrale du Japon a agi. Donc, on peut retrouver un petit peu de volatilité sur les devises liées justement à ces déséquilibres, hein, qui sont en train de se former.
Voilà donc pour la parité euro-dollar, le dollar, la remontée du dollar commence à avoir des influences. À l'instant, il y a ces chiffres que nous donne l'agence Reuters qui nous fait remarquer que, a priori, l'indice S&P 500 va chuter de 7% sur le premier trimestre 2026, qui serait apparemment son pire trimestre. Gilles, je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire, sur 4 ans. Voilà, il y a la prudence des investisseurs, la résurgence de l'inflation, les incertitudes au Moyen-Orient, puis l'impact de l'intelligence artificielle. Pire trimestre en vue pour le S&P depuis 4 ans, Gilles, hein, c'est ce que nous dit l'agence Reuters, effectivement.
Oui, ça ne sera pas un bon cru. On l'observe, hein, sur l'évolution. On a eu une phase de cassure en fin de semaine dernière, oui, qui nous a donné une grosse dynamique baissière. Alors, sur le S&P 500, vu que vous m'en parlez, on a un objectif actuellement qui se situe à 6100 points. Bon, là, les futurs ont tendance à remonter un petit peu sous l'impact de ce qu'a dit Donald Trump récemment. Mais globalement, là, effectivement, on est en train de... Alors, on est aussi sur un indice qui a fortement monté, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui. Donc, une phase de correction est peut-être envisageable, effectivement. On a de nombreux facteurs, l'impact de la crise au Moyen-Orient, l'intelligence artificielle. Ça fait beaucoup de choses, effectivement, qui pourraient emmener le S&P 500 sur une phase de consolidation un peu plus profonde.
6343 points hier soir à la clôture pour le S&P 500. Dernière séance du premier trimestre aujourd'hui. Et donc, on est parti, effectivement, pour une baisse de 7% du S&P 500 sur le premier trimestre. Mai 2026, ça serait donc sa pire performance trimestrielle en l'espace de 4 ans. On suivra bien sûr avec Antoine Larrigaudry la séance, hein, début de séance cet après-midi du côté de Wall Street. Merci beaucoup Gilles en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business. Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Il est 11h28, on revient dans deux petites minutes à peine. On va parler de votre patrimoine, d'autres sujets de patrimoine pendant une demi-heure. On va parler des performances à venir des ETF, on va parler du transfert intergénérationnel, toutes ces sommes d'argent qui vont passer d'une génération à l'autre dans les prochaines années. Je vous rappelle ce chiffre hallucinant. Rien qu'en France, vous avez 9000 milliards d'euros de patrimoine qui vont changer de main d'ici 2040, c'est-à-dire 14 ans, c'est demain 2040. Et puis on parlera un petit peu avant midi de ce qui occupe beaucoup de salariés en ce moment. Vous êtes nombreux à recevoir soit vos primes d'intéressement, soit vos primes de participation. On va donner quelques conseils pour gérer tout ça au mieux. Évidemment, tout ça jusqu'à midi pour nous occuper sur BFM Business. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Allez, la boîte à outils, 11h31 sur BFM Business. C'est Jérôme Viala qui est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, fondateur associé de Patrimovie. On va parler des ETF. On va parler un petit peu des performances à venir des ETF. Quel est le message que vous avez envie de nous faire passer aujourd'hui?
Ouais, alors il y a un constat, en trois parties. Ouais. Première partie, c'est le fait que la majorité des Français sont investis dans le marché américain. Moi, j'expliquerai après comment. Deuxième partie, c'est le fait que le marché américain coûte très cher.
Ouais.
Et du coup, troisième partie, quelles sont un peu les alternatives?
Ouais.
Donc la première partie, c'est donc là aujourd'hui, un tiers des Français sont intéressés à la bourse.
Et on a vu une étude de BlackRock, on en a parlé hier, qui disait qu'il y avait une nouvelle vague d'investisseurs en France sur les ETF qui arrivait. Donc voilà, plus que dans les autres pays européens pour le coup.
Hein. Ouais, exactement. Là aujourd'hui, on est aux alentours de 2,5 millions de Français qui ont investi dans des ETF.
Ouais.
Donc ETF, pour un petit rappel, c'est un panier d'actions qui va nous permettre d'investir dans un secteur ou une zone géographique. Le sujet, c'est que la majorité des Français sont investis dans soit le S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines,
ou
le MSCI World, donc les 2000 plus grosses sociétés mondiales. Mais 70% du MSCI World, c'est le marché américain.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Le sujet aujourd'hui, donc du coup là, c'est le point 2, c'est le fait que aujourd'hui, les marchés américains coûtent très cher.
Ouais.
Il y a un ratio qui nous permet de le voir, c'est le price to earning.
Ouais.
Price to earning, c'est la valorisation d'une société divisé par les bénéfices.
Ouais.
Le problème, c'est que d'une année sur l'autre, le bénéfice ça peut varier.
Et
donc, ça peut rendre ça très volatile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le Cap-Shiller ratio, qui permet d'avoir la valorisation du coup sur la moyenne des bénéfices sur 10 ans. Et si on regarde entre 1881 et aujourd'hui, donc depuis 150 ans...
Ah oui, vous avez pris très très large pour le coup. Ouais.
La moyenne de ce Cap-Shiller est aux alentours de x17.
Ouais.
Et en fait, il a atteint x40 deux fois en 150 ans. La première fois, c'était avant la crise de bulle Internet, donc dans les années 1999.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et la deuxième fois, c'était il y a quelques mois.
D'accord.
Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, en fait, quelles sont les alternatives?
Alors voilà, oui, c'est ça, oui.
En fait, le problème, c'est donc, ce qu'on entend énormément d'ailleurs sur LinkedIn ces derniers temps, c'est que 90% des fonds perdent de l'argent face aux indices de référence. Donc ça, depuis 20 ans, ça, c'est l'étude de Spivar. Cependant, en fait, ça, c'est vrai. C'est si on regarde, du coup, des sociétés de gestion de portefeuille de façon un peu aléatoire.
Ouais,
en réalité, il y a eu une étude qui est sortie en 2021, donc assez récente, qui a pris la donnée de 3000 fonds aux États-Unis.
Ouais.
Donc, dans les années entre 1983 et 2020 environ. Et on s'est rendu compte que si on regarde les 5 plus grandes convictions de ces fonds-là, ces fonds d'investissement surperforment les marchés de 2,5% à 4,8% par an. Donc, ce qui est énorme. Donc, ça, c'est une étude qui a été beaucoup relayée par des investisseurs.
Énorme.
Notamment Xavier Delmas. Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, comment ça se fait alors que l'étude Spiva nous dit que 90% des fonds perdent face aux indices? En réalité, il y a différentes raisons. De un, il peut y avoir des fonds un peu déguisés qui vont essayer de copier un ETF.
Oui.
Du coup, à ce moment-là, on paye des frais pour rien. Donc
on paye des frais pour rien, voilà, c'est ça. Oui,
Et en fait, la plus grosse raison, c'est le fait que la majorité de ces fonds détiennent beaucoup trop de titres. Il y a 50 ans, c'était en moyenne une soixantaine. Aujourd'hui, c'est 165, c'est beaucoup trop. Pourquoi aussi? Parce qu'il peut y avoir des comportements moutonniers des fonds.
Oui.
Par exemple, c'est très difficile pour un fonds de dire aux investisseurs, on n'est pas dans Nvidia pour x, y raison, alors qu'en fait, Nvidia a explosé. Quoi.
Oui.
Donc, aujourd'hui, en fait, en réalité, il y a des points de contrôle qui permettent d'aller dénicher ces 10% de fonds qui surperforment le marché. Je pourrais pas tout voir aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques points de contrôle.
Ouais. Alors, ce qu'on appelle les points de contrôle, c'est quoi? C'est des critères?
C'est des critères, on va dire, à valider. Ouais. Par exemple, le premier, bon, ça, c'est simple, ça va être la performance historique du fonds.
Ouais.
Plus il y a d'historique et plus la performance est stable, mieux c'est. Et ensuite, l'équipe de gestion qui va être assez stable dans le temps.
Alors, sur l'historique, il faut un historique de combien, à peu près?
Moi, je dirais plus de 10 ans, c'est bien.
Plus de 10 ans.
S'il existe depuis 5 ans ou 3 ans, à ce moment-là, est-ce que l'équipe de gestion avait d'autres fonds? Et à ce moment-là, il faudrait peut-être regarder fonds là pour voir ce qui se passe, notamment avec Indépendance AM, typiquement avec le nouveau fonds Europe qui existe depuis 5 ans.
Ça c'est pour l'historique et pour l'équipe de gestion. Alors ça aussi c'est très subjectif. Comment est-ce qu'on...
Ouais, alors l'équipe de gestion, on peut voir s'il y a des gérants qui existent, enfin qui sont en place depuis très longtemps. Il y a des gérants qui sont en place depuis 20 ans, 30 ans. Donc est-ce qu'il y a un gros turnover?
Ouais.
Et en fait en général, ça va donner une indication.
Turnover, ça dit quoi? Grand turnover.
Un grand turnover, c'est si un fonds va changer de gérant tous les 3 ans, quoi, quelque chose comme ça.
Ouais. D'accord.
Si un gérant est là depuis 10 ans ou depuis 20 ans, en général, c'est qu'il performe.
Ouais.
Donc, il va pouvoir continuer. Et en plus de ça, ça nous donne une indication sur sur sa rigueur et sa constance en termes de stratégie.
D'accord. Ok. Je referme la parenthèse. C'était pour préciser ça.
Donc, il y a ça. Ensuite, il y a l'active share. Donc, l'active share, ça, j'aime beaucoup. L'active share, grosso modo, c'est entre 0 et 100%. Plus il est faible, plus le fonds, en fait, en réalité, n'a pas trop de conviction et va copier son indice de référence.
Ouais.
À ce moment-là, en fait, on paye des frais pour rien et vaut mieux aller sur l'ETF.
Oui.
Au-dessus de 60%, c'est une bonne chose. Ensuite, on va avoir le tracking error. Donc ça va être plutôt la différence par rapport à la performance du fonds. En général, c'est entre 0 et 10%. Et en général, donc l'active share et le tracking error vont venir de pair. Ouais. Donc, je vous donne quelques exemples. Ouais. Donc, si on a un actif share élevé avec un tracking error élevé, ça signifie qu'en général, ça va être plutôt un fonds à grosse conviction, stock picker, voire même des fonds de niche, typiquement de l'emerging market sur l'automobile, quelque chose comme ça. Si l'active share est faible avec un tracking error élevé, à ce moment-là, en fait, ça va être les mêmes actions de l'indice. En revanche, il va y avoir une surpondération sur un certain secteur, par exemple 40% sur la tech. Et ensuite, dernier point, si on a une active share qui va être faible avec un tracking error faible, à ce moment-là, en fait, on appelle ça le closet indexeur. Donc, en fait, en réalité, il réplique exactement le fond. Et donc, du coup, l'indice de référence, on paye de l'argent pour rien, vaut mieux aller sur l'ETF.
Voilà. Donc, il y a des alternatives. Voilà. Il faut aller les chercher, mais ça, c'est un boulot quand même.
C'est un boulot, ça prend du temps. Et en plus, là, je vous ai donné que quelques indices. Il y en a d'autres. Il y a comme le risque, la volatilité, max drawdown, donc la perte maximum d'un fonds.
Ouais.
Et après, il y a différents ratios.
Concrètement, comment on fait ce travail, Jérôme? Parce que c'est, on a énuméré les critères. Comment est-ce qu'on va se renseigner?
En fait, premièrement, on a beaucoup de sources de données comme Cantalis et Morningstar, donc sur lesquelles on a beaucoup d'informations. Déjà, sur la version gratuite, on peut avoir pas mal d'infos.
On peut avoir d'infos déjà, oui.
ActiveShare, c'est plus difficile à avoir. ActiveShare, donc soit on va regarder les fact-sheets, enfin les relevés des différents gérants chaque mois, soit ils ne sont pas indiqués. À ce moment-là, il faut aller contacter directement les gérants.
Oui.
Donc voilà comment faire pour avoir ces informations. Et si on a une minute, je peux en donner quelques-uns.
Allez-y.
Le Sharpe ratio, ça j'aime beaucoup. En fait, ça permet de mesurer le combien est-ce qu'on va gagner par rapport à chaque unité de risque supplémentaire. Plus on s'approche de 1, mieux c'est. Si c'est en dessous de 0, il faut fuir.
Ouais.
Après, deux derniers que je ne vais pas expliquer là parce qu'on n'aura pas le temps, mais Sortino et information, si c'est en dessous de 0, il faut fuir. Et si c'est aux alentours de... Alors, l'information, si c'est à plus de 0,5, c'est très bien. Ouais. Sortino, si c'est à plus de 1, c'est très bien.
Bon, voilà. Tout un travail de recherche sur des sites. Vous avez parlé de plateformes qu'on pouvait éventuellement, auxquelles on pouvait se référer pour faire monter en puissance cette présence des ETF qui déjà commence à... certains publics en France. Assez jeune, apparemment. Ça, c'est du côté des plus jeunes que ça se diversifie.
C'est assez jeune. Et il y avait quand même une dernière chose quand même importante. C'est je veux pas être alarmiste en réalité en disant que qu'on a tapé deux fois 40 fois le cap shiller. Ouais. En réalité, qu'est-ce que ça dit? Ça dit surtout que sur les 10 prochaines années, statistiquement, à 78% de chance, on va avoir un rendement qui va être annualisé aux alentours de 2,3% par an.
2,3%
sur les
10 prochaines années.
Ouais, comparé à 10% historiquement.
Alors faisons ce travail de fond, voilà. Merci beaucoup Jérôme, c'était très clair. Jérôme Viala, merci d'être venu, fondateur associé chez Patrimovie. Merci Jérôme.
Merci Guillaume.
Avec plaisir sur BFM Business. 11h39, le placement à suivre tout de suite sur BFM.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Le placement à suivre, on va parler transfert intergénérationnel avec Sébastien Champion qui est avec nous en plateau. Bonjour Sébastien, bonjour. Soyez le bienvenu, responsable partenaire et solution chez Swissquote. Alors le transfert intergénérationnel, par définition, c'est le transfert des biens de génération en génération. Si on fait une petite définition rapide.
Oui, bien sûr. En fait, c'est le transfert de patrimoine d'une génération à une autre.
Ouais.
Ce qui est intéressant, en fait, et dans ce transfert de patrimoine qui va intervenir, enfin qui est en cours et qui va durer jusqu'à 2040, c'est finalement la propension de ce transfert qui est sans précédent, puisqu'on estime à 80 000 milliards de dollars dans le monde ce transfert, et au niveau français, 9 000 milliards.
C'est impressionnant, c'est la démographie, c'est la fin d'une génération petit à petit, donc ça donne des transferts absolument faramineux. Alors une fois qu'on a dit, expliquer ce qu'était un transfert, alors pas mal de petites questions. Qui sont les bénéficiaires essentiellement de ce transfert, en fait?
Effectivement, on a une génération finalement de baby-boomers
c'est la génération des baby-boomers.
Vieillissant, donc transmet à la nouvelle génération. Les principaux bénéficiaires, finalement, c'est les générations Y et X, alors on va dire entre 25 et 55 ans, pour simplifier. Et ce qui est intéressant de mettre en exergue, c'est finalement... à quel point cette génération est différente de la précédente. Pourquoi ? Elle a d'autres attentes, finalement. Effectivement, elle a un besoin de digitalisation qui est autrement plus poussé que l'ancienne.
Que les aînés,
Ils ont effectivement une tendance à être beaucoup plus interventionnistes dans leur gestion. Donc, on peut opposer la gestion discrétionnaire à la gestion... à la gestion conseil, mais également ils ont des vies et des situations qui sont plus complexes à gérer. Il y a des éléments d'extranéité qui doivent être pris en considération. Je pense notamment à la situation familiale qui a pas mal évolué. Oui.
Le fait qu'ils soient beaucoup plus mobiles. Voilà, oui,
mais également au niveau des enfants qui peuvent faire leurs études un peu partout dans le monde. Et donc ça, d'un point de vue bancaire, c'est quelque chose qu'il faut être en mesure de pouvoir adresser.
Alors justement, comment est-ce que les banques s'adaptent à cette nouvelle donne? Ça, c'est évidemment le vrai sujet aujourd'hui, finalement.
Il y a plusieurs façons dont les banques peuvent adapter leurs solutions. Alors, il y a l'élément digital. Et donc là, je pense qu'il y a des investissements massifs qui ont été effectués ces dernières années par les établissements bancaires. Et c'est un premier point qui est important. À côté de ça, il y a l'adaptation de l'offre. C'est la capacité de faire coller une offre à nos clients, à leurs clients. Ça implique quoi? C'est d'avoir un univers d'investissement qui est large. C'est de pouvoir couvrir tous les besoins d'un client pour pouvoir le conserver, finalement. Donc on parle des comptes TI, des contrats d'assurance vie, du crédit lombard, de la capacité à financer de l'immobilier. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'actifs alternatifs. Donc ça, c'est des problématiques qui ont été adressées par les banques et d'ailleurs plutôt bien. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour conserver cette typologie de clientèle? Pas forcément.
Vous avez la réponse. Donc quand vous dites pas forcément, vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce que je dois comprendre entre les lignes quand on dit ça?
On voit empiriquement finalement qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Je vais appeler ça des néo-CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, des family office qui de façon assez agressive et structurée arrivent à pallier à quelques manquements que les banques peuvent avoir. Ça répond aussi à une nécessité de se montrer opportuniste quant aux solutions que les banques proposent. Et donc, c'est, on peut dire, un nouveau paradigme dans la façon de gérer la fortune de ses clients, dans le sens où le client va utiliser une personne externe pour trouver les meilleures solutions à disposition en fonction des besoins.
C'est ça.
J'ai besoin d'un contrat d'assurance vie, on va aller plutôt voir cet assureur. J'ai besoin d'un crédit lombard, on va plutôt aller voir cette banque. Et donc, ça rend les choses beaucoup plus agiles. Et finalement, ça bénéficie à tout l'écosystème parce que ça le rend plus compétitif.
Ouais, c'est-à-dire que le modèle bien ancré de la fidélité à vie à une seule et unique banque, pour vous, c'est quelque chose qui est amené à s'estomper petit à petit, à disparaître, peut-être pas, mais...
Disons qu'il y a plusieurs éléments. Il y a le fait que la première banque de votre enfant, c'est pas forcément la banque dans laquelle vous êtes aujourd'hui.
Oui.
Dans le sens où on a des acteurs digitaux qui sont désormais sur le marché et qui avec lesquels il faut composer, je dirais. Là où c'est difficile, c'est de pouvoir couvrir tous les besoins d'un client lors de la vie du client.
Qu'une banque peut faire ça? Est-ce qu'une banque peut se targuer de couvrir tous les besoins du client de sa naissance jusqu'à sa disparition?
À tort, en tout cas.
À tort, en tout cas.
Non, je pense que le principal frein, c'est l'élément d'extranéité, c'est l'expatriation, le fait d'avoir une vie plus mobile, des besoins spécifiques à un instant T, qui fait qu'il est difficile de couvrir tous les besoins d'un client. Donc, je pense que ce qui se met en place depuis pas mal d'années, via des conseillers en gestion de patrimoine, et quelque chose de plutôt sain qui permet finalement de couvrir un besoin de marché.
On va voir arriver pour vous, du coup, progressivement, de nouveaux acteurs en fonction de nouveaux besoins ou pas. Est-ce que demain, moi particulier, je papillonnerai peut-être entre plusieurs établissements, plusieurs particuliers?
Je pense à partir d'une certaine surface patrimoniale.
À partir d'une certaine surface patrimoniale.
C'est une question qu'il faut se poser.
Ouais.
C'est est-ce que ma banque est en mesure de me proposer les meilleurs produits à disposition? Et donc là, c'est aux banques de se remettre en question, parce qu'il y a souvent la problématique des fonds maison.
Oui.
Et donc là, il faut peut-être revoir la façon de procéder, regarder si c'est possible de faire de l'architecture ouverte, être d'accord d'aller sur un produit ou sur un setup particulier qui permet de conserver le client finalement dans le temps. Ça, c'est des choses, je pense, qu'on va voir. Dans les établissements bancaires classiques.
Et les établissements bancaires classiques, justement, dernière question. Les besoins, vous nous dites, sont de plus en plus démultipliés. Est-ce qu'il y aura pour autant de la place à terme pour... C'est une question peut-être sans réponse, mais pour tous les établissements, les historiques, plus les nouveaux acteurs. Vous dites, on est à la veille peut-être de nouveaux mouvements de concentration dans le secteur bancaire.
Bon, on l'a vu ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de mouvements de concentration, notamment entre des acteurs digitaux et des acteurs plus classiques. Et je pense que c'est un mouvement qui va perdurer dans le temps.
Qui va perdurer dans le temps, oui. Ouais.
Non, effectivement.
Mais il y a un avenir pour les historiques, pour vous, malgré tout? Bah, vous dites, ce sont quand même des paquebots qui n'ont pas l'agilité, malheureusement, dont
ils sont disponibles. C'est inhérent à leur capacité de s'adapter, finalement. C'est ce qu'ils vont être en mesure de s'adapter pour pouvoir servir cette typologie de clientèle qui est plus agile dans sa façon de procéder. Si c'est le cas, je pense que tout le monde ira bien.
Tout le monde trouvera sa place.
Exactement. Si c'est pas le cas, il y aura forcément les acteurs, et j'appelle ça les acteurs externes, tierces, qui tireront leur épingle du jeu finalement. Ouais.
Passionnant ce qui se passe dans ces métiers de la banque aujourd'hui, avec l'émergence de nouveaux besoins, de nouveaux clients, de nouvelles pratiques. On suit ça bien sûr de près sur BFM Business. Merci beaucoup Sébastien, merci de passer nous voir aujourd'hui. Sébastien Champion, responsable partenaire et solutions chez Swissquote. Merci Sébastien de passer nous voir, à très vite avec plaisir. 11h47, voici le coffre-fort tout de suite pour terminer cette émission.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Allez, le coffre-fort, 11h48 pour terminer cette émission. Bon, on va parler d'un sujet de saison, c'est les primes d'intéressement, les participations qui commencent à tomber, que vous commencez à recevoir. Ça se passe de mars à mai 2026. On va en parler avec Benjamin Pedrini qui est avec nous. Bonjour Benjamin, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Co-fondateur d'Epsa. Donc il y a 9 millions de salariés qui reçoivent ça en ce moment, mars à mai.
Un peu plus même, on est maintenant à 13,3 millions de bénéficiaires d'épargne salariale, donc un petit peu plus, ouais.
Alors, on va retomber dans des questions... on appelle ça des marronniers dans la presse, vous savez comment ça se passe tous les ans. Épargne salariale, participation, intéressement, vaut-il mieux la percevoir directement ou l'épargner? Si on épargne, comment faire les bons choix? Ça en fait des questions, comme vous voyez les choses, Benjamin, en 2026. Là.
Bah ça fait effectivement beaucoup de questions, et souvent quand on reçoit cette prime, hein, à cette période de l'année, on ne sait effectivement pas trop quoi faire, et on peut encore plus se poser des questions parce que les marchés sont agités. Si on s'intéresse un petit peu à la situation du moment, on se dit que ça peut poser des questions sur investir ou pas. Oui. Le fait est que justement, il faut déjà s'y intéresser quand on la reçoit, et que une des premières questions à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de liquidité tout de suite ou pas,
parce qu'il y a la peur du blocage derrière.
Quoi. Exactement, il y a toujours la peur du blocage. Alors il faut savoir effectivement que le blocage, il existe certes, mais il y a beaucoup de cas de déblocage anticipé sur ces primes-là, et notamment qui répondent à tout un tas de situations de vie où on pourrait avoir besoin de débloquer cette épargne. Et l'autre élément important à savoir, et qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais une partie des ménages qui perçoivent ces primes-là sont imposés, et c'est qu'on va payer de l'impôt sur le revenu on la perçoit là où on est exonéré d'impôt sur le revenu si on place. Et donc parfois la différence peut être assez significative, et donc il est plus intéressant de placer pour bénéficier de cet avantage.
C'est intéressant, vous dites on se pose beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas, mais on passe à côté de ça, à côté de certaines opportunités finalement.
On passe à côté de certaines opportunités, celles effectivement de percevoir une somme et de pouvoir l'investir dans la durée en bénéficiant de cette économie d'impôt qui peut être significative en fonction de sa tranche marginale d'imposition, mais à côté d'autres opportunités aussi, puisque dans pas mal d'entreprises, ces primes d'intéressement et de participation peuvent être associées à de l'abondement, et donc ça, il faut effectivement s'intéresser au dispositif de son entreprise. Mais lorsqu'on a de l'abondement, c'est l'entreprise qui va ajouter un complément à votre épargne. Vous placez 1000, l'entreprise peut rajouter 100, 200, 500, voire même parfois ça peut aller jusqu'à 300%. Donc en fonction de l'entreprise, les montants peuvent être significatifs.
Ça va jusqu'à 300%.
Le maximum légal sur l'abondement, c'est 300%. Et donc effectivement, il y a des entreprises qui utilisent ce maximum-là et qui offrent 300% d'abondement à leurs collaborateurs, parfois avec un plafond. Parfois c'est 300% d'abondement seulement sur les 100 premiers euros investis. Oui. Mais vous placez 100, votre entreprise vous en donne 300. Donc il y a toujours cet intérêt-là. Et donc il faut s'intéresser à ce sujet-là, parce que là aussi il peut y avoir une perte d'opportunité si vous n'allez pas d'une certaine façon chercher ces sommes que votre entreprise vous met à disposition.
Absolument. Donc là, ce sont des questions générales qui se posent tous les ans. Alors qui plus est en 2026, effectivement, vous le disiez, l'environnement n'est pas forcément le plus opportun. Qu'est-ce qu'on fait en 2026 en termes de gestion du risque, justement?
Ce qu'on fait en 2026, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on fait chaque année, quoi qu'il en soit. C'est qu'on se pose la question déjà par rapport à sa situation personnelle. L'épargne salariale, que ce soit le PE ou le PER, on est sur du placement qui est du placement moyen ou long terme. Et le vrai sujet, du coup, sur un placement moyen ou long terme, dès lors qu'on a fait le choix d'investir et de ne pas l'apercevoir sur son compte courant, c'est de le placer par rapport à son horizon d'investissement et son appétit pour le risque. Et surtout, on va dire, l'erreur à ne pas faire, c'est de la laisser placer par défaut, ouais. Ou bien de faire le choix d'aller vers les supports les plus sécurisés qui existent, parce que justement 2026 et on peut avoir un peu peur. On parlait un petit peu plus tôt dans cette émission d'inflation. On est sur le retour de l'inflation.
Il y a le temps de faire son marché, donc
exactement. Aller sur les supports les plus sécurisés dans ces contextes-là, aller vers les fonds monétaires. Quand on est un peu averse au risque, ça peut paraître être un choix intéressant. C'est en fait le choix qui fait perdre de l'argent. Donc le sujet justement, c'est de se poser cette question, et c'est surtout potentiellement d'être conseillé pour faire ces choix-là. Il y a des acteurs aujourd'hui, c'est le cas nous chez Epsor, on conseille les épargnants, et donc bien se poser la question ou utiliser les outils qui sont mis à disposition, ouais, pour bénéficier d'un conseil par rapport à sa propre situation et éviter justement une perte d'opportunité aussi en allant sur des supports trop sécurisés.
Et voilà, donc il y a le profil épargnant, et puis il y a l'outil aussi, vous me dites, parmi les questions qu'on se pose, PE ou PER collectif, qu'est-ce qu'on choisit?
PE ou PER collectif, là, encore une fois, en fonction de l'entreprise, on a accès à l'un, à l'autre ou aux deux. Le sujet, c'est effectivement... Premièrement, pour moi, de regarder les règles d'abondement dont on vient de parler, parce que parfois certaines entreprises vont vouloir vous inciter, ouais, à épargner pour votre retraite, ouais, et donc vont mettre en place des règles d'abondement plus avantageuses sur le PER. Et il est évidemment intéressant d'aller chercher cet abondement additionnel. Donc ça c'est je pense le premier sujet à regarder. Évidemment, le PER un peu plus bloquant que le PE, puisque les cas de déblocage anticipé sont plus rares. Pour autant, il faut pas avoir peur du PER, y compris quand on est un jeune actif, ouais, parce que quoi qu'il en soit, déjà la préparation de sa retraite est un vrai sujet. Ouais. Le PER, on peut y aller même via des versements volontaires et pas seulement avec l'investissement de ses primes, mais ces versements volontaires sont déductibles, ouais, de son impôt, ouais, sur revenu, donc il y a un vrai intérêt à y aller. Et d'autre part, quand on est effectivement un jeune actif, on peut, avant de penser à la retraite, mais c'est une étape clé aussi dans la préparation de sa retraite, penser à acheter sa résidence principale. Le PER est débloquable pour cette raison-là. C'est aussi un produit qu'on peut utiliser.
C'est l'occasion de rappeler les autres conditions de déblocage, les autres cas de déblocage, hein, pour
ce... Alors sur le PER, effectivement, comme je le disais, c'est assez limité. On a évidemment la retraite, c'est un produit, ouais, qui a vocation de créer une épargne pour la retraite. Donc il y a la retraite, il y a l'acquisition de la résidence principale qui est un vrai sujet et un sujet et une étape clé aussi dans la préparation de sa retraite d'une certaine façon. Et ensuite on a tout un tas de situations qui sont plutôt des accidents de la vie. En revanche, sur le PE, les cas de déblocage sont beaucoup plus fréquents. Vous avez le mariage, vous avez le PACS, des situations moins heureuses comme le divorce ou la dissolution d'un PACS, mais également l'arrivée d'un troisième enfant. Dorénavant, vous avez des nouveaux cas de déblocage sur les violences conjugales, vous avez des cas de déblocage sur les travaux de rénovation énergétique. Donc, oui, les cas sont assez nombreux.
L'éventail est plus large désormais.
Exactement.
Ouais, ouais. Et alors, dernière question, et pas la moindre. Que se passe-t-il si on ne fait aucun choix dans le délai imparti de 15 jours, ce qui doit représenter une bonne proportion de celles et ceux qui sont sauvés?
C'est effectivement
à l'intéressement, la participation, évidemment.
C'est effectivement une bonne proportion chaque année. Ouais. Effectivement, vous laissez, soit vous êtes notifié dans votre application, oui, soit vous recevez un courrier, puis vous ne le traitez, voilà, pas. Et effectivement, si vous ne le traitez pas, vous allez être investi selon des règles qui sont définies, dans la loi, et qui sont différentes pour l'intéressement et la participation, qui parfois sont fléchées vers le PE, parfois vers le PER. Donc il faut faire attention parce que la participation pour moitié est fléchée sur le PER, ouais, donc un peu bloquée un peu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, vous êtes investi sur les supports les plus sécurisés ou sur une gestion pilotée prudente. Donc ce que je vous conseille, moi, si jamais effectivement vous avez raté le coche au bout des 15 jours, c'est vous avez toujours la possibilité d'aller sur votre application pour gérer votre épargne salariale et réaliser des arbitrages. Si vous avez raté le coche des 15 jours, que vous avez été investi par défaut sur des supports monétaires et que vous avez envie d'avoir une autre allocation, n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous connecter et réaliser des arbitrages.
C'est pas rédhibitoire.
Exactement.
D'accord. Et ben voilà, on sait tout en quelques minutes, 6-7 minutes sur BFM Business, tout pour savoir gérer son épargne salariale, prime d'intéressement, participation. On est dans la période mars-mai 2026 pour 13 millions de salariés français. Merci Benjamin.
Merci.
Merci beaucoup de passer nous voir, Benjamin Pedrini, le cofondateur d'Epsor avec nous sur BFM Business. À très vite. Voilà, 11h57, c'est fini pour aujourd'hui. Marie-Cœur Devoir arrive dans un instant, Limo, et puis on se retrouve demain à 11h pour de nouvelles aventures. Bonne journée demain.
Tout pour investir sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming.